Imaginons un instant qu'on observe les plans d'un architecte pour un bâtiment majestueux.
Ouais, le truc parfait, immaculé sur le papier.
Exactement. Les lignes sont droites, les calculs sont exacts, l'harmonie est absolue. Mais ensuite, eh bien, on met ses bottes et on débarque sur le vrai chantier de construction.
Et là, c'est pas la même histoire.
Ah, ça non. C'est la boue jusqu'aux chevilles, les scies qui hurlent, les livraisons en retard, genre systématiquement, et les ouvriers qui se disputent violemment sur comment couler le béton.
Le chaos total, quoi.
C'est ça, c'est profondément désordonné, c'est terriblement humain, et en fait, je trouve que c'est la métaphore parfaite pour notre exploration d'aujourd'hui.
Je suis 100% d'accord. C'est une excellente image.
Parce qu'aujourd'hui, on plonge au cœur des notes du docteur Matthew S. Harmon sur une portion vraiment fascinante d'un texte ancien, l'épître aux Philippiens de l'apôtre Paul. Plus précisément, on va regarder la fin du chapitre 3 et le début du 4.
Un passage assez intense.
Très intense. Et l'aspect le plus captivant de cette plongée dans nos sources, c'est cet impact brutal. Tu sais, quand une théologie cosmique d'une ampleur intellectuelle vertigineuse percute à pleine vitesse la réalité très concrète de la gestion des relations humaines.
Absolument. Et le contexte historique rend cette collision encore spectaculaire. Il faut vraiment se représenter la ville de Philippe au 1er siècle.
Ce n'était pas juste un petit village de province, hein ?
Non, pas du tout. C'était une vraie colonie romaine, peuplée de vétérans de l'armée. C'était un lieu où, eh bien, on respirait l'allégeance à l'empereur, on s'habillait comme à Rome, la fierté civique, c'était quasiment une religion en soi.
D'où notre décor virtuel d'aujourd'hui. J'adore le fait qu'on ait superposé ces anciennes bibliothèques romaines grandioses avec des scènes hyper modernes de gens qui naviguent dans la politique de bureau ou les tensions d'un café bondé.
C'est exactement ça. Parce que la dynamique de ce texte n'a pas pris une ride. Le but de notre analyse aujourd'hui, c'est pas de faire un exercice académique ennuyeux sur des racines grecques.
Non, on veut extraire du concret pour ceux qui nous écoutent.
Exactement. On veut fournir un véritable raccourci intellectuel pour saisir ce qu'est vraiment la maturité. Comment naviguer face aux influences toxiques et surtout, pourquoi la survie d'une communauté repose souvent sur la résolution d'une simple querelle entre deux personnes.
Bon. Décortiquons tout ça parce qu'il y a beaucoup à dire. Entrons dans le vif du sujet. Pour comprendre cette mécanique des relations humaines qui va exploser à la fin du texte, il faut d'abord poser la fondation.
Ouais, le cap.
Voilà. Quel est l'objectif ? Et l'auteur fixe un cap très clair, qui, fort heureusement, n'est pas à la perfection absolue. La source souligne bien que la perfection, de ce côté-ci de la gloire, c'est une illusion totale. L'objectif, c'est la maturité spirituelle.
Et c'est une nuance cruciale.
J'y pensais. Et si je devais utiliser une analogie, c'est exactement comme apprendre un instrument de musique très complexe, genre le violoncelle. Quand on débute, on arrive à jouer trois notes justes. Et on se prend pour un virtuose. L'ego gonfle.
L'effet Dunning-Kruger classique.
Grave. Mais plus on apprend, plus on découvre des techniques d'archer impossibles, des nuances vertigineuses, et plus on se rend compte de l'immensité océanique de ce qu'on ignore. La maîtrise ne donne pas un sentiment d'achèvement, elle donne un vertige d'humilité. Je suis fasciné par ça.
Cette image du violoncelle illustre parfaitement la mécanique du texte. Parce que le docteur Harmon a extrait trois marques spécifiques de cette fameuse maturité.
Vas-y, quelles sont-elles ?
Alors la première, c'est une poursuite inébranlable. Une concentration quasi laser sur la figure du Christ, en refusant de se laisser engloutir par le bruit ambiant.
Ce qui est loin d'être facile de nos jours avec toutes nos distractions.
C'est clair. Ensuite, la deuxième marque valide complètement ton idée du musicien humble. C'est la conscience aiguë que l'on n'est pas arrivé.
Ah, le danger de se croire parfait.
Oui, le danger clinique par excellence. C'est cette illusion d'optique où un individu pense qu'après deux ou trois décennies d'expérience, il n'a plus besoin de grandir. C'est mortel pour la maturité.
Et la troisième ?
La troisième, c'est la résilience face au passé. Ne pas être paralysé par le poids de ses échecs, ni endormi par ses succès passés. C'est un mouvement perpétuel vers l'avant.
D'accord, je valide l'objectif. Mais là où la méthode me fait un petit tiquer, et on va en parler, c'est sur le moyen d'y arriver. L'auteur recommande l'imitation.
Oui, le verset 17.
Voilà. Il dit en gros d'observer ceux qui sont matures et de les copier. J'ai un vrai blocage conceptuel ici. L'imitation, c'est pas le terrain le plus glissant qui soit.
Tu veux dire par rapport aux dérives sectaires ?
Absolument. Dans n'importe quel contexte de leadership, demander d'imiter d'autres humains, c'est la recette garantie pour créer des sectes de personnalité, des clones qui perdent leur identité propre pour singer les tics de langage d'un gourou. Comment on évite le désastre psychologique là ?
C'est une objection vitale. Et franchement, une lecture superficielle conduit exactement à ce désastre dont tu parles.
Bon, rassure-moi alors.
En fait, le mécanisme de limitation ici ne se situe pas du tout au niveau du comportement de surface. Tout se joue dans le mot grec original « freiner ».
Freiner, ça désigne quoi ?
Ça désigne la pensée profonde, l'état d'esprit, ou même l'inclination viscérale. L'apôtre ne dit pas de copier comment la personne s'habille. Il faut reculer un peu dans la lettre, au chapitre 2, l'hymne au Christ. L'appel, c'est d'adopter le phréno du Christ, donc une posture radicale d'humilité.
D'accord, donc c'est plus intellectuel.
Totalement intentionnel, ouais. Imiter un leader mature, c'est analyser son système d'exploitation mentale. Comment il réagit sous la critique? Comment il traite ceux qui n'ont pas de pouvoir?
Oh waouh! C'est le logiciel interne qu'il faut télécharger, pas l'interface visuelle.
Exactement. C'est ce logiciel-là. Et le docteur Harmon souligne que ce téléchargement ne se fait pas tout seul dans son coin. C'est un projet communautaire où tout l'écosystème s'observe et se calibre.
Ok, je vois. Mais si on accepte que ce système mental se transmet par l'observation, ça crée une vulnérabilité massive, non ?
C'est-à-dire ?
Eh bien, si on télécharge le mauvais logiciel, si on choisit le mauvais modèle, tout l'écosystème s'effondre. Et je trouve que ça explique ce virage extrêmement sec que fait l'auteur juste après.
Oui, tant il parle des ennemis de la croix.
C'est là que ça devient vraiment intéressant. Il met en garde contre ce groupe et la source indique que ce ne sont probablement pas des étrangers aléatoires, mais possiblement d'anciens associés de l'Église qui ont dévié.
C'est une trahison de l'intérieur, en quelque sorte.
Et leur description est effarante. Il dit que leur Dieu est leur ventre, qu'ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte et que leur phréno est verrouillé sur les choses de la terre.
L'expression « leur Dieu et leur ventre » est particulièrement forte. Elle heurte de plein fouet la culture de l'époque.
Pourquoi ?
C'est lié aux lois alimentaires, certains l'ont pensé, mais le consensus de notre source voit beaucoup plus large. Dans le monde gréco-romain, particulièrement chez les stoïciens, l'idéal ultime, c'était la maîtrise des passions par la raison.
Ah, donc le ventre, c'est l'opposé de la raison.
Exactement. En disant ça, l'auteur dénonce des gens dont le centre de commandement, ce sont les impulsions viscérales. Une vie pilotée par la satisfaction immediateta. Le pouvoir, le confort, la sexualité, l'avidité.
C'est un miroir terrifiant de notre culture moderne. Si on transpose ce concept du « dieu-ventre », c'est la définition parfaite d'une société pilotée par l'économie de l'attention et les algorithmes.
Ouais, on est en plein dedans.
On scrolle sur un écran et l'algorithme est calibré par des ingénieurs pour contourner notre cerveau rationnel et frapper directement dans nos impulsions les plus basiques. Et cette idée de mettre sa gloire dans sa honte.
Il suffit d'ouvrir les réseaux sociaux pour voir ça.
Tellement. Des comportements narcissiques ou de la cruauté verbale glorifiés par des millions de vues. Des choses qui, selon les critères bibliques évoqués dans Romains 1, devraient inspirer de la retenue.
C'est une inversion totale des valeurs.
Mais... Et c'est là que je suis un peu perplexe face à cette menace majeure, la réaction de l'auteur est déconcertante. Il écrit qu'il parle d'eux avec des larmes.
Oui, il pleure.
Mais aujourd'hui, l'opposition toxique, on l'annule, on la moque, on la détruit avec des arguments cinglants sur Twitter. L'idée de s'opposer fermement tout en pleurant sincèrement sur leur sort, ça semble extraterrestre. C'est pas un signe de faiblesse stratégique.
Ça soulève une question importante. Mais voir ses larmes comme une faiblesse, c'est utiliser une grille de lecture moderne basée sur le pouvoir.
Et le texte utilise une autre grille.
Une grille basée sur la rédemption. En réalité, pleurer face à l'opposition, c'est la preuve d'un ancrage émotionnel super puissant.
Comment ça ?
Réfléchissons-y. La colère, ça divise. Ça sert à déshumaniser l'adversaire pour le réduire à un obstacle à abattre. Ça protège notre ego.
C'est vrai que c'est plus confortable d'être en colère.
Voilà, alors que le chagrin, ça nécessite de maintenir l'humanité de l'autre intacte. L'auteur pleure parce qu'il comprend la trajectoire finale de ce phréno toxique. La fin de ces personnes, c'est la destruction.
Donc ce n'est pas une guerre d'ego pour lui.
Pas du tout. C'est l'observation d'une authentique tragédie humaine. Conserver la capacité de pleurer pour ceux qui s'opposent à nous, c'est vraiment le test ultime de la maturité dont on parlait au début.
C'est une perspective qui change la donne. Mais du coup, face à ce risque d'être englouti par ces impulsions terrestres, quelle est la solution ? L'auteur ne dit pas de fuir dans un monastère.
Non, il propose une citoyenneté céleste.
Voilà. L'idée que l'allégeance fondamentale n'est plus à Rome, mais aux cieux. Moi, j'imagine un ambassadeur. Un ambassadeur posté dans une capitale étrangère ne méprise pas la ville où il réside. Son mandat, c'est d'y importer les valeurs de sa patrie d'origine.
C'est une excellente métaphore. Et le docteur Harmon est très clair, l'idée d'avoir tellement la tête au ciel qu'on est bon à rien sur terre, c'est une trahison du texte.
C'est l'ancrage céleste qui doit générer l'amour terrestre, en fait.
Absolument. Et si on relie ça à une perspective plus large, à la ville de Philippe, pour eux, la citoyenneté romaine, c'était le trésor absolu. Privilèges fiscaux, statut juridique, le fameux Ius Italicum.
Donc dire « votre citoyenneté est dans les cieux », c'est politiquement hyper subversif.
Totalement. Ça redéfinit toute leur loyauté, et cette nouvelle citoyenneté s'accompagne d'une promesse cosmique. Le texte dit que le Christ va transformer notre corps misérable ou humilié, ce corps qui vieillit, qui tombe malade, pour le configurer à son corps glorieux.
Et la source élargit ça à l'univers entier, non ?
Oui, c'est la promesse de soumettre toute chose pour établir le shalom.
Le shalom, cette idée de paix totale, de restauration de l'ordre parfait. C'est magnifique, mais j'ai une objection majeure ici.
Je t'écoute.
N'y a-t-il pas un danger d'évasion psychologique ? Si on garantit qu'un shalom cosmique va tout réparer demain, que nos corps seront neufs, que l'univers sera réinitialisé, pourquoi se fatiguer aujourd'hui ?
C'est le fatalisme du genre « Dieu s'en occupera à la fin ».
Exactement. Pourquoi investir des milliards contre le cancer ou les injustices systémiques si tout finit par être réparé par magie ?
C'est le grand malentendu de l'espérance des temps de la fin. Mais en réalité, cette attente du shalom opère exactement à l'inverse d'un anesthésiant. C'est le moteur de l'action.
Ah bon ? Comment ça ?
Parce qu'on sait à quoi ressemble la réalité ultime voulue par Dieu, un monde sans maladie ni oppression. On considère les souffrances présentes comme une anomalie à combattre, pas comme une norme. L'espérance du futur dicte l'éthique du présent.
Donc on essaie d'amener des fragments de ce futur dans le présent ?
Exactement. Historiquement, l'invention des hôpitaux ou les mouvements d'abolition de l'esclavage sont souvent nés de cette impulsion. Et sur un niveau plus intime, le docteur Harmon note que pour quelqu'un qui traverse la maladie dégénérative ou le handicap, savoir que son corps n'est pas destiné à la poubelle cosmique, c'est une ancre vitale.
Ça ne produit pas l'apathie, mais une résilience incroyable. Je comprends mieux. Mais alors, et là, accroche-toi, parce que le texte nous fait subir un freinage brutal. On navigue dans les étoiles, on contemple la galaxie réparée et bam !
Le fameux chapitre 4.
L'auteur nous plaque au sol, en plein milieu d'un problème de ressources humaines dans le sous-sol de l'église. Il nomme publiquement deux femmes, Évodie et Saint-Itché, et leur ordonne de s'entendre.
C'est la douche froide, ouais.
Imagine la scène. Ce document est élu publiquement, tout le monde est émerveillé par la gloire cosmique, et soudain, le lecteur pointe Évodie et Saint-Itché du doigt devant tout le monde. C'est l'équivalent d'un PDG qui enverrait un email à tous disant « Marie et Sophie de la Comta, arrêtez vos gamineries ».
Le malaise est total.
Astronomique. C'est de l'humiliation publique. Pourquoi ne pas régler ça en privé ? Émotionnellement, c'est catastrophique, non ?
Le malaise qu'on ressent, il révèle surtout nos préjugés hyper-individualistes. Pour comprendre, il faut regarder le statut de ces deux femmes.
Elles n'étaient pas juste des fidèles anonymes au fond de la salle.
Pas du tout. Le texte dit qu'elles ont combattu pour l'évangile. Dans une église comme Philippe, fondée par une femme influente, Lydie, Évodie et Saint-Itché étaient probablement des leaders majeurs, des mécènes qui hébergeaient peut-être la communauté.
Ah, donc ce n'est pas juste une petite dispute de voisinage.
Non, ce sont des plaques tectoniques qui s'affrontent. Ça crée des factions, ça désintègre le phrénos commun. L'auteur devait intervenir publiquement parce que la maladie menaçait tout le corps.
Alors, qu'est-ce que tout ça signifie en termes de résolution ? Parce qu'il ne lâche pas juste une bombe, il met un processus en place.
Oui, il interpelle son fidèle collègue, le terme grec « Syjugus », qui pourrait être un vrai prénom d'ailleurs, pour les aider à se réconcilier. C'est le projet communautaire. Le conflit d'autrui, c'est l'affaire de tous quand la santé du réseau est en jeu.
Et il y a ce détail magnifique pour désamorcer l'humiliation. Il valide publiquement leur travail passé et il mentionne que leurs noms sont dans le livre de vie.
Oui. C'est un outil de désescalade magistral.
Mais comment ce concept théologique force-t-il la paix, concrètement ?
Ça vient de l'Ancien Testament, l'image d'une solidarité indestructible. En gros, le message à Évodie et Saint-Itché, c'est « Dieu a gravé vos noms ensemble pour l'éternité dans la même famille. Vos divisions temporelles d'ego sont illogiques, parce que vous êtes liés pour toujours. »
C'est puissant ! La théologie cosmique devient la pince de mécanicien pour réparer la fuite du tuyau humain.
Exactement. Le cosmique et le banal sont indissociables.
L'architecture de cette pensée est dingue. On choisit nos modèles pour forger notre fréneau. On l'oriente vers la citoyenneté céleste qui alimente notre lutte pour la justice aujourd'hui. Et ça exige de résoudre nos conflits locaux.
Impossible d'aspirer à l'harmonie universelle si on a une guerre de tranchées dans son propre salon, c'est sûr.
Ce qui m'amène à une réflexion finale un peu provocatrice pour ceux qui nous écoutent. On s'inquiète souvent des ennemis de l'extérieur, ceux guidés par le dieu ventre. Mais si bâtir le shalom exige de l'unité, et si notre plus grand obstacle n'était pas les ennemis, mais nos propres collaborateurs?
C'est un renversement qui pousse à un sévère examen de conscience.
Combien d'énergie vitale est gaspillée dans des tyrannies, des guerres d'ego internes qui empêchent de faire avancer le chantier? Beaucoup de conflits insolubles sont juste des chamailleries entre personnes inscrites dans le même livre de vie. C'est inconfortable, mais vital pour évaluer notre citoyenneté, céleste ou terrestre.
C'est une excellente réflexion sur laquelle conclure, je trouve.
Eh bien, merci d'avoir exploré ces dynamiques avec moi. C'est bon de garder ça à l'esprit la prochaine fois qu'on croisera une évodie ou un saintige dans notre vie. À très bientôt pour une nouvelle plongée dans nos sourcignopaux.